retrouver ici, de retrouver mon église, de retrouver tous ces gens que j'aime et de retrouver toutes ces personnes qui ont été placées, que le Seigneur a mis sur ma route et a placées autour de moi. Vous savez, l'église, c'est une famille, ok? Et dans la famille, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments forts, il y a des moments moins forts. Bienvenue sur terre. Amen. Donc, je rejoins ce que disait Marc ce matin. On vient de chanter un chant, « Mon Dieu sauve avec puissance ». Et en règle générale, on vient d'avoir un temps de louange. Et je me disais ce matin, on peut louer de différentes façons. On peut louer parce que c'est dimanche matin, qu'on sait qu'on est à l'église et qu'on doit louer. Alors, on chante et on chante avec nos sentiments. On chante avec ce qu'on ressent. C'est-à-dire que si on est un jour où on est de bonne humeur, si c'est un jour où on s'est levé de bon pied, tout va très bien. On va chanter, mais on va chanter, vous savez quoi? Avec Philéo, avec l'amour qui parle des sentiments. Quand, vous savez, je regardais cette semaine une émission à la télé, enfin la semaine dernière, je ne sais plus trop quand, il y a quelques jours. C'était une émission, un remake et encore remake et encore remake de Johnny Hallyday. Vous savez, Johnny Hallyday, on parle souvent de Johnny Hallyday dans cette église, fatalité. En tout cas, c'est Christelle qui en a parlé. Bon, on ne va pas dire qu'on est des fans de Johnny, parce qu'on n'est pas des. Enfin, peut-être qu'il y en a qui l'apprécient, chacun a le droit. Mais je disais cette semaine, je disais, Seigneur, Johnny, ils l'ont interviewé, je ne sais pas si vous l'avez vu, cette émission avec Michel Drucker. C'était tout un show avec Johnny Hallyday. Et je regardais cet homme. Et je disais, cet homme est vraiment passionné. Il est passionné dans ce qu'il fait. Il est passionné, il met vraiment tout son cœur. Vous allez me dire, oui, c'est son travail. Effectivement. Mais même si c'est son travail, on voit qu'il a donné sa vie. Il a vécu pour cette cause. Il a eu des toutes sortes, on peut suivre le périple de sa vie, il a eu toutes sortes aussi d'événements qu'il a cherché, qu'il n'a pas cherché, peu importe, ça ne nous regarde pas. Mais il a continué à faire brûler cette passion. Il a fait continuer à faire brûler ce désir de sortir, là il vient encore de sortir un nouvel album. Quand il monte sur scène, quand il arrive sur scène, qu'il dit, qu'il lève les mains, tout le monde l'a produit parce qu'il y a un feu, il y a quelque chose qui sort de lui. Et ce matin, la question que je me posais, c'est est-ce que l'Église est passionnée? Bof, il y a mieux. Est-ce que l'Église est passionnée? Voilà. Vous savez, l'attitude de notre cœur au quotidien avec le Seigneur va définir l'altitude dans laquelle nous allons aller. L'attitude que nous avons au quotidien, dans la vie au quotidien, face aux difficultés, face aux situations, face aux joies, face aux peines, face à ce qui est arrivé, face à ce qui aurait dû arriver, qui n'est pas arrivé, va définir de notre altitude et de notre amour avec Dieu. En fait, j'ai dit une bêtise, ça ne va pas définir. C'est notre cœur qui va réagir en fonction de ça. Mais notre amour à nous devrait être celui de agapé. C'est-à-dire, notre amour pour le Seigneur ne regarde pas. Notre amour sur le Seigneur, la passion qui brûle en nous, le désir de servir le Seigneur, le désir de faire les œuvres que le Seigneur a pour nous, le désir d'aller dans les voies que le Seigneur va pour nous, ne vient pas de ce que nous ressentons. Mais ça vient de cet amour qui est en nous, qui est au fond, qui brûle, qui brûle, qui brûle. Mais pourquoi à un moment donné? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi à un moment donné, il reste tranquille? Pourquoi à un moment donné, on n'arrive pas à décoller du plafond? Entre le plafond et le ciel, il y a quelques hauteurs. Vous savez, on arrive en ce moment dans les périodes de Noël. Et on voit beaucoup de choses se passer, on voit beaucoup de publicités, il y a beaucoup d'associations, et notamment l'association de Coluche, les Restos du Cœur. Et je me disais, Coluche a été un homme passionné. Coluche a créé les Restos du Cœur parce qu'il avait une vision, parce qu'il avait un but, parce qu'il y avait quelque chose qui a brûlé dans son cœur. Peut-être qu'il n'était pas sauvé, mais peut-être que le Seigneur aussi l'a utilisé pour faire ça. Peut-être pas, peut-être oui, mais peu importe. Il a créé cette association et aujourd'hui encore, cette association perdure. Dans les difficultés, peut-être au début n'a-t-il pas eu les moyens. Peut-être au début c'était tout petit, mais il a continué. Il est allé de l'avant. On va parler d'Abraham Lincoln. Abraham Lincoln était un président des États-Unis qui s'est battu pour aller contre l'esclavage. Vous savez, il a eu beaucoup de problèmes. Lisez sa vie, il a eu énormément de problèmes. Il a été emprisonné, il a eu énormément de problèmes. Ça ne l'a pas empêché de vivre sa passion. Et vous savez quoi? Il y est arrivé. Martin Luther King, c'est pareil. Nelson Mandela est mort à l'âge de 95 ans. Il est allé contre l'apartheid. Est-ce que vous croyez que ce temps qu'il a passé en prison l'a empêché et a fait en sorte qu'il s'arrête? Non, parce qu'il a continué à vivre cette passion. Il a continué à brûler. Cette passion était tellement forte en lui qu'il a continué à aller. Et la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que la passion pour Christ en nous brûle toujours autant qu'au début? Est-ce que ce feu, vous savez, quand on vient au Seigneur, on a un feu, on a une joie, on a envie de déplacer les montagnes, comme la Bible dit, si tu dis à cette montagne, déplace-toi. Et au début de notre conversion, on a tendance à déplacer les montagnes, parce que le Seigneur, dans sa grâce, nous utilise. Le Seigneur, dans la grâce, va nous utiliser pour prier, va nous utiliser pour imposer les mains, va nous utiliser pour faire toutes sortes d'œuvres. Et au début, on voit vraiment la grâce de Dieu sur nous, on voit la puissance de Dieu en nous, et on est là, ouais, avec Dieu, nous ferons des miracles, avec Dieu, nous ferons des espoirs, ouais, gloire à Dieu. Seulement, au bout de 6 mois, entre deux, il y a eu un petit ralentissement qui s'est passé. Ok. Et là, ce matin, je vais vous dire, si on prend l'Église, je ne parle pas que cette Église, je parle en règle générale, l'Église a besoin vraiment de brûler encore plus pour Christ. Vous savez, quand on parle du mot « passion » dans le dictionnaire, on dit que c'est un état affectif intense et irraisonné qui domine quelqu'un. Est-ce que les sentiments, les sentiments que l'on a pour le Seigneur sont ceux qui dominent dans notre vie? Ou est-ce que au fil des mois, au fil des années, au fil des difficultés qu'il y a pu avoir, est-ce qu'on a commencé à se rafraîchir? Vous savez, on peut venir à l'église et on peut faire mille et une choses. On peut faire les choses des fois par mimétisme. On peut faire les choses des fois par habitude, mais sans s'en rendre compte, par moment, on a ce feu qui descend petit à petit. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus Dieu, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus envie de venir à l'église, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les uns et les autres, mais par routine, par habitude, on a tendance peut-être par moment à baisser le pavillon de notre flamme pour le Seigneur. Et c'est involontaire, volontaire ou involontaire. Vous savez, quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui a le feu. Et pour qu'un feu de cheminée reste allumé, il va falloir le raviver. Et c'est pareil dans notre vie avec le Seigneur. Si on veut rester passionné, eh bien il va falloir constamment raviver la flamme qui est en nous. On va voir tout à l'heure. 2 Timothée 1,5, si vous voulez le prendre. Nous dit, c'est pourquoi je te demande de raviver la flamme que Dieu a allumée pour toi. N'oublie pas d'entretenir le don qu'il t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Tu en es dépositaire à présent. Car ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné, mais un esprit de courage, d'amour, d'enthousiasme. C'est un esprit actif et aimant qui nous rend forts et aimants. Il nous donne un jugement sain et une parfaite maîtrise de nous-mêmes. C'est dans la parole vivante. Ce qui m'intéresse ici, c'est vous êtes dépositaires. Un jour, vous êtes venus au Seigneur. On a prié pour vous. Vous savez, à différentes réunions, lorsqu'il y a eu même des séminaires, des conférences, souvent les prédicateurs nous imposent les mains et mettent des dons en nous. Chacun d'entre nous a un dépôt de dons dans lui. Chacun d'entre nous a un don dont il est le seul à être maître. Et moi, ce matin, ce que je veux dire, c'est quelles sont les capacités, quels sont les dieux, les dons, quelle est la chose que Dieu t'appelle à faire au quotidien? Comment est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait toujours avec ce feu, avec ce désir de plaire à Dieu? Parce que quand on fait quelque chose, c'est pour plaire à Dieu, c'est pas pour les hommes. La Bible d'ailleurs le dit, que tout ce que vous faites, faites-le au nom du Seigneur. Est-ce que ce désir, est-ce que ces dons qui sont en toi, est-ce que toutes ces capacités, tu les utilises pour le Seigneur? Ou est-ce que tu continues à venir à l'église? Et c'est bien, mais tu n'es pas au summum de tes possibilités. Est-ce que tu as une petite partie qui est cachée parce que tu es resté endormi, parce qu'elle est endormie? Ou est-ce que tu as ce feu qui brûle en toi, qui fait que maintenant, je vais me lever, maintenant, je veux te servir, et je veux te servir de tout mon cœur. Vous savez, quand on est jeune marié, en règle générale, on s'aime de tout notre cœur. Au bout de 10 ans, ça a changé. Et vous savez quoi? C'est pas normal. C'est pas normal, parce qu'on devrait arriver à garder cette même flamme du début. On devrait arriver à garder notre premier amour. Et avec le Seigneur, c'est pareil. Ok? Paul parle de tout son cœur dans ce verset. Il parle de tout son cœur à Timothée. Timothée était alors diacre dans une église naissante et il avait une destinée dans le Seigneur. Mais au moment où Paul lui adresse ses paroles, il traversait une période de découragement. Et il exhorte son disciple à ranimer ce que Dieu a mis en lui. Peut-être que tu es découragé pour des circonstances dans ta vie. Peut-être que tu n'as pas trouvé le travail que tu aurais souhaité. Peut-être que tes enfants n'en sont pas où ils en sont. Peut-être que ta famille n'en est pas où elle en est. Peut-être que ton mariage n'est pas arrivé au point où il en est. Peut-être que tu es célibataire et que tu n'es pas encore marié et que tu trouves que les choses sont longues. Ça fait partie de la vie de tous les jours. Ça fait partie de la vie dans le Seigneur. Mais ces choses-là ne sont pas appelées, ne sont pas dans nos vies pour nous faire ralentir avec notre marche avec le Seigneur. Au contraire, ça doit être une hargne, ça doit être une dire « Ah oui, puisque je suis découragée, je vais encore plus loin et je vais encore plus fort. » Vous savez, une passion peut s'éteindre. Une passion, elle peut s'éteindre. Et si on ne la retient pas, elle peut s'éteindre. Un feu de cheminée, il peut s'éteindre. Vous savez, quand il reste quelques braises, il faut donner un petit coup de soufflet pour que ça reparte. Mais avec nous, c'est pareil. Des fois, il n'y a que des braises, ou alors c'est un petit peu carrément stand-by. C'est tout couvert. Mais ce n'est pas grave, on donne un coup de soufflet et ça part. Donc, quand on vient au Seigneur, ce feu brûle. Peut-être, donc ça je vous l'ai dit, on a vu des miracles chez les uns et les autres, on a appris qui est Dieu, on a eu des expériences avec Dieu, et puis ce feu tombe. Vous savez, pour vivre au quotidien, tout le monde a besoin d'une passion. Et il y a toutes sortes de passions. Je connaissais un jeune garçon, enfin maintenant qui est sûrement un jeune homme, ce jeune garçon vivait tellement sa passion que c'était pour le foot. Ce sacré foot. Il y a des amateurs de foot dans cette pièce? Ah, alors je ne vais pas dire des choses méchantes sur le foot. Vous savez, ce jeune garçon vivait pour le foot, il vivait jour et nuit pour le foot. Il mangeait jour et nuit. Quand j'arrivais le matin en fin de matinée, des fois ça m'arrivait de passer chez lui, c'était « Oh, t'as vu le match hier soir ?» Et alors, on regardait, j'entendais les buts du match. Je savais par cœur les noms des personnes qui avaient joué le match. Je savais par cœur qui avait tiré un penalty, un corner et tout ce que vous voulez qu'il peut y avoir dans le foot. Chaque fois, et on le regardait, et on le re-regardait. Et ce passage, en même temps, à la télé, on ne vous les passe pas une fois, on vous les passe 25 fois. D'accord ? Et il regardait. Le soir, c'était « t'as vu tel joueur ?» Eh bien, tel joueur, il a été acheté à tel prix, par telle équipe. C'était tellement une passion qu'il a vivait jour et nuit. Il la vivait jour et nuit, il se donnait entièrement à lui. Et c'est vrai que toute personne dans sa vie a besoin d'une passion, a besoin de s'attacher à quelque chose. Une passion, c'est quelque chose que l'on aime, c'est quelque chose à quoi on va se donner. Et si vous regardez, beaucoup de gens autour de nous s'attachent à quelque chose. Ce n'est pas forcément du foot, ce n'est pas forcément un sport, ça peut être, ils vont s'attacher à toutes sortes de choses. Vous savez, il y a des personnes qui s'attachent excessivement aux enfants. Vous allez me dire, ouh, Evelyne, qu'est-ce que tu dis là? Non. Nos enfants peuvent devenir une passion. Involontairement, nos enfants peuvent devenir une passion. Ça veut dire qu'on va les faire passer avant tout dans notre vie. Alors Jésus a dit que la passion, c'était lui en premier. chrétien a besoin de diriger sa passion dans une bonne direction, forcément vers Christ. On va prendre Abraham. Abraham, on connaît tous l'histoire d'Abraham. Abraham a eu un enfant avec Agar, et puis il y a l'enfant de la promesse avec Sarah. Abraham a eu dans sa vieillesse la bénédiction d'avoir un enfant, l'enfant que Dieu avait promis. Abraham était tellement consumé par Dieu, premièrement, il n'a pas douté. Il a marché avec foi que quand Dieu lui avait dit quelque chose pour sa vie, c'est-à-dire qu'il allait lui donner un enfant, il a cru. Vous savez, peut-être qu'il s'est trompé en cours de route, qu'il a été voir Agar. Mais ça ne fait rien, il a quand même cru à cette promesse. Il est resté attaché à ce que Dieu lui avait montré. Pourquoi ? Parce que la passion qu'il avait pour Dieu était plus forte que ceux qui étaient dans le naturel, c'est-à-dire Sarah qui ne pouvait pas avoir des enfants. Il a continué à croire. Et puis est arrivé, j'ai perdu son nom, Isaac. Okay. Isaac grandit et d'un seul coup le Seigneur lui dit, donne-le en sacrifice. Abraham était tellement passionné pour Dieu, avait tellement un amour brûlant pour Dieu qu'il n'a pas hésité d'aller sur le bûcher et d'amener son fils. Il avait une telle confiance en Dieu qu'il se disait, Dieu pourvoira pour le sacrifice. Mais l'amour qui était en lui, la passion qui était dans Abraham, a fait qu'il n'a pas hésité à aller au bûcher, d'y attacher son fils et de lever le couteau. Imaginez-vous, lever le couteau sur ton enfant alors que c'est le seul enfant que tu as eu dans ta vieillesse, l'enfant de la promesse. Peut-être que ses pensées, elles se... Mais il a été jusqu'au bout, dans la passion qu'il avait pour lui, il a été jusqu'au bout de ce que Dieu lui a demandé de faire. Et Dieu l'a arrêté, et on connaît tous l'histoire qu'il a trouvé un bélier dans les herbes. Vous savez, la passion qu'on peut avoir pour Dieu peut nous donner des forces, va nous donner des forces surnaturelles. Quand Dieu demande de faire quelque chose et qu'on le fait motivé pour lui, réellement pour lui, le cœur à 100% pour lui, parce qu'on est animé du vif désir de le faire pour lui, mais vous savez quoi ? Ça va donner des forces surnaturelles. David, on va prendre l'exemple de David. David, tout le monde sait que David était un très jeune berger. Il avait beaucoup de frères et c'était un jeune berger. Et il gardait ses troupeaux, il gardait les brebis, comme un jeune enfant. Vous savez, quand un enfant a 12-13 ans, bon maintenant ils sont peut-être un petit peu différents dans notre époque, mais à l'époque on n'était pas du tout dans les mêmes contextes et dans la même vie que maintenant. Et David était quelqu'un de sans doute de très candide, de très gentil, de très doux. Et ce David-là a été envoyé pour garder les brebis. Vous savez quoi ? Pendant qu'il gardait ses brebis, pendant qu'il était en train de garder ses brebis, ce qui se passait tout simplement et bêtement, Dieu était en train de le préparer au combat pour Goliath. Prenez avec moi le verset, on va le lire. 1 Samuel 17, 33. Samuel 17, 33 dit « David dit à Saul le roi, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre de sa jeunesse. David dit à Saul, ton serviteur faisait paître les brebis à son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera de même du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours » me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » David, qui était un jeune enfant,
avait un tel amour pour Dieu, avait une telle passion pour Dieu, que quand il a dit « il faut combattre ce Philistin parce qu'ils se sont tous débinés, parce qu'ils avaient la trouille », David a dit « moi j'irai ». Pourquoi ? Qui est ce Philistin ? Qui est cet incirconcis qui a parlé mal de mon Dieu ? La passion qui le gérait, la passion qui était en lui, était tellement plus forte, tellement grande, qu'il n'a pas regardé que du haut de ses 14 ans, il faisait peut-être 6 fois de moins la taille. Il a regardé que Dieu était capable, dans sa passion, de lui donner les forces surnaturelles, parce qu'il avait déjà vécu au Fabre avant, face aux lions et aux ours, mais là c'était encore pire. Il a compris que Dieu serait capable de le délivrer à cause de l'amour qui brûlait en lui. Dieu, il a compris que Dieu pourrait le faire sortir vivant et victorieux. Son amour et son passion pour Dieu ont fait que quand il a fallu défier Goliath, ça n'était rien pour lui. Dites-moi, la Bible, elle ne nous dit pas « rien ne t'est trop difficile » ? David n'a pas regardé aux circonstances. Pourtant, quand on marche avec Dieu, il y a des moments où, quand on voit, il y a des moments où on est, on va dire, ralenti. Il y a des moments où on n'arrive plus, il y a des moments, c'est comme si on avait des boulets, comme si on se traînait des boulets qui nous empêchent à aller de l'avant. Ok, donc on va voir comment entretenir la passion. Alors, d'abord, c'est ne regarde pas en arrière. Philippiens 3:13 nous dit « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la victoire. » Je cours vers le but, peu importe les circonstances, peu importe ce qu'a été ta vie, peu importe quels ont été tes échecs, peu importe ce que tu as fait et que tu n'aurais pas dû faire, peu importe ce que tu n'as pas fait mais que tu n'aurais dû faire, peu importe les circonstances que tu as eues jusqu'à ce jour, tu ne regardes plus derrière parce que tu es rempli de la force du Très-Haut et que tu peux courir et aller devant. Peut-être as-tu été mis KO par le diable, ok ? Dans des situations, parce que tu as pris des mauvaises décisions, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné dans ta vie. Vous savez, des fois, on s'engage. Peut-être as-tu fait des choses avec le Seigneur. Peut-être as-tu commencé à faire une œuvre avec le Seigneur. Peut-être as-tu commencé à prier certaines choses avec le Seigneur. Et ça s'est tourné en échec. Tu sais quoi ? Dieu est en train de te dire, ne regarde pas derrière, mais cours. Regarde devant. Comme dit notre pasteur, le meilleur est devant. Par contre, une chose qui est sûre, c'est que, vous savez, dimanche, mardi, on a eu une réunion de prière, comme d'habitude à la Madeleine. Et le pasteur Elisabeth a dit quelque chose de très intéressant que je vais vous redire ce matin. Elle a souligné un point, elle a dit, dans la vie, dans notre vie de chrétien, le diable ne peut rien contre tout ce que Dieu a mis en toi. Le diable ne peut rien contre l'appel qu'il a pour toi, que ce soit dans le ministère ou l'appel tout simplement à le servir, l'appel à être son enfant. Il ne peut rien contre cet appel. Il ne peut rien contre tes capacités. Il ne peut rien contre tes dons. Il ne peut rien contre tes talents. Il ne peut rien contre tout ce que Dieu a prévu de mettre en toi déjà avant que tu viennes au monde. Tu as été créé. La Bible nous dit qu'il avait des projets déjà formés pour nous. Dieu ne peut rien contre ça. Le diable ne peut rien contre ça. C'est en nous, c'est ancré et ça y reste. Même si demain, tu as envie de partir faire le tour du monde et de ne pas aller à l'église, ça restera en toi. Dieu ne se repent ni de ses dons, ni de son appel. Par contre, le seul endroit où il peut agir, c'est sur cette terre. Le seul endroit où il peut agir, c'est dans les circonstances et dans le temps que nous sommes sur cette terre. Et là, il va tout faire pour mettre le paquet pour nous ralentir. Vous avez remarqué ? Ou je suis la seule ? Sinon, dites-moi-le, c'est pas normal. Ok ? Il peut tout faire pour essayer de nous ralentir, mais il ne pourra rien faire contre les projets que Dieu a pour vous. Vous êtes le seul décisionnaire à agir et à vivre par la foi, à agir et à vivre avec la passion de Christ, ou à regarder aux circonstances et à se laisser aller et à se rentrer dans une dépression, dans un découragement, dans un abattement, parce que la vie ne va pas comme je voudrais qu'elle aille. Mais déjà, est-ce que ce « je voudrais qu'elle aille » est le même « je voudrais que le Seigneur a pour toi » ? À vous de savoir. Parce que le « je veux » n'est pas forcément le « je veux » du Seigneur. Ok ? On va recontinuer sur David. Vous savez, David a grandi, donc depuis l'histoire de David et Goliath. Il est devenu un homme. Et David était en guerre. Et à un moment donné, David était sur le toit de la maison, en train de prendre l'air, comme on dit, les doigts en éventail, pendant que ses hommes étaient à la guerre et rentraient fatigués. Et lui, il était sur le toit de la maison. Donc le grand David qui a combattu Goliath, le grand David qui a mené à bien des guerres, qui a fait gagner contre les Philistins, le grand David qui a remporté toutes sortes de victoires, ce soir-là est au mauvais endroit, au mauvais moment. Et il n'est pas en train de faire ce que Dieu l'appelle à faire. Ça vous dit quelque chose, ça ? Ok ? C'est arrivé à personne, je sais. Donc, il n'est pas au bon endroit, au bon moment, il est dans un lieu où il n'aurait pas dû être ce soir-là. Et on voit au verset 4, donc 12, si vous le lirez à la maison, de Samuel 11, 2, donc c'est le début de l'histoire. Et on voit au verset 4, donc du toit de sa maison, il voit Bathsheba. Et il la fait venir et il commet l'adultère. Le grand roi David, qui brûlait de passion pour Dieu, qui était animé du feu de Dieu, a eu un passage où il a direct, carrément, on va dire, je ne dirais pas le terme, un câble. Il a disjoncté l'ami David. L'ami David, il était dans un endroit où il n'aurait pas dû être et il a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Il a ses yeux qui se sont posés où il ne devait pas se poser. Et au lieu de détourner le regard, il a continué à aller dans cette voie. Il a fait venir Bathsheba. Il a commis l'adultère. Et de cet adultère, il y a un enfant qui est venu. Mais non seulement ça, le roi David, le grand roi David, au lieu de s'arrêter à l'adultère commis et à l'enfant qui vient, d'accord ? Il se débrouille pour que Uri, le mari de Bathsheba, le faire venir. Il te lui passe une crème et une pommade, tu es le meilleur, tu es le plus beau, c'est pour ça que je t'envoie au combat devant. Et il se débrouille de faire en sorte de le faire tuer. Le grand roi David a été, on va dire, le pire des voyous qu'il puisse y avoir. Adultère et meurtrier. Il y a des meurtriers dans cette pièce ? Non ? Alors, peu importe notre vie, peu importe notre vie, on n'est pas au niveau de David. On a eu des loupés, mais on n'est pas au niveau de David. Amen ? Donc, le grand roi David se débrouille pour faire tuer Uri. Et Uri, donc, meurt. Et on voit, on continue la lecture au fil de la lecture, dans 2 Samuel 12, au verset 13, on voit qu'apparaît Nathan. Et Nathan savait pertinemment ce que David avait fait. Et Nathan lui dit, et David, entre deux, a eu le temps de se rendre compte. Il s'est rendu compte parce que, vous savez, quand on aime Dieu, quand on n'est pas sur sa voie, Dieu nous reprend. Et on est capable. On est capable d'entendre sa voix. Maintenant, si on l'étouffe, ça c'est un autre problème. Mais quand Dieu nous reprend et nous montre les choses qui ne vont pas dans notre vie, on est capable d'entendre sa voix. Et là, David a dit, verset 13, dans 2 Samuel 12, verset 13, il dit, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « Aussi l'Éternel a fait ton péché et tu ne mourras pas. » Vous savez quoi ? Peut-être aujourd'hui tu as fait des choses qui ne sont pas ou qui t'ont amené bien bas. Peut-être qu'aujourd'hui tu n'as pas pris les places que tu as voulu. Mais tu n'es pas au point de David. Personne n'a commis d'adultère, ça ne me regarde pas. Mais personne n'a tué dans cette pièce. Ok ? On n'est pas au point. Si Dieu a réussi à pardonner David, à combien plus forte raison, par la grâce de Dieu, nous sommes pardonnés et rien ne nous empêche de continuer à aller dans l'avant, de reprendre le chemin duquel nous nous sommes écartés et de reprendre cette passion qui était en nous. Amen. Rien ne nous en empêche. La grâce de Dieu prévaut sur tout ce que vous avez fait ou tout ce que vous auriez dû faire et que vous n'avez pas fait. Reconnais tes fautes et appuie-toi sur ta grâce. Vous savez, il y a peut-être... Non, plus tard. On prend l'exemple du retour du fils prodige. Le fils prodige avait quitté son père, il est parti, il a dilapidé toute sa fortune. Il a dilapidé tout son héritage. Quand le fils est revenu, on dit qu'il avait passé du temps avec les pourceaux. Imaginez, le fils qui revient, il devait cocoter le jeune homme, d'accord ? Ça ne devait pas sentir bon. Et le père l'a accueilli les bras ouverts et a fait tuer le veau gras. Alors peut-être que ce matin, le Seigneur est en train de t'accueillir. Si tu t'es loupé, ce n'est pas grave. Le Seigneur est en train de t'accueillir et le retour du fier prodige, il t'ouvre les bras. Ok ? Avec le Seigneur, il l'a restauré dans la position qu'il avait perdue. Dieu n'est pas un Dieu, comment dire, qui punit. Ah, t'as fait ça, et bien maintenant, puisque c'est comme ça, je t'enlève ça. C'est faux. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Et Dieu, quand nous revenons à lui, un cœur sincère, avec foi, et quand nous avons vraiment ce désir de retourner dans ses voies complètement, le Seigneur est en train de te dire, je t'ai pardonné. Par sa grâce, la grâce prévaut sur ce que tu aurais dû faire. Lazare, on voit avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Vous savez, quand on prend le passage de Lazare, Lazare, on sait tous que Lazare est mort. Okay ? Il est mort et Jésus n'était pas là. Et Marthe et Marie ont fait appeler Jésus, mais il n'était pas là. Et Lazare est mort. Il était depuis quatre jours dans le tombeau. Et Jésus l'a ressuscité des morts. Marthe et Marie lui ont dit, « Seigneur, si tu avais été là, vous savez quoi ? Avec le Seigneur, il n'est jamais trop tard. » Avec le Seigneur, il n'est jamais trop tard. Peu importe ce qui a fait ou ce qui n'a pas été fait, il n'est jamais trop tard. Tu peux toujours reprendre ta course, tu peux toujours courir, tu peux toujours reprendre ce punch que tu avais, tu peux toujours retrouver cette énergie, cette foi, ce feu que tu avais quand tu marchais bien avec Dieu. Rien ne t'en empêche, il n'est jamais trop tard. La fille de Jairus, c'est pareil. Quand dans Luc... Il est dit, la fille de Jairus, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus entendit cela et dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Il n'est jamais trop tard. Pour le Seigneur, il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard. Rappelle-toi, ravive la flamme qui est en toi. Ravive le feu. Arrête de déprimer parce que tu ne vois pas les choses arriver comme tu veux qu'elles arrivent. Arrête de déprimer parce que tu crois que ton Dieu ne t'a pas abandonné. Arrête de déprimer parce que ta prière n'a pas été exaucée. Il n'est pas en retard. Mais il n'est pas en avance non plus. Arrête de déprimer contre ceux que tu ne comprends pas. Arrête de déprimer. Mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi ? On est tous dans les pourquoi, 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 pourquoi ? Et le Seigneur va me dire, si tu te tais 5 minutes, tu me laisseras agir. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Ok, on marche par la foi et non par la vue. Je marche et je crois que même si ma famille n'est pas sauvée, mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, mon collègue, mon enfant, même s'il n'est pas sauvé, même si mon enfant fait des bêtises, je crois que la main de Dieu est dessus et que moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Peut-être que tu as perdu cette relation avec tes enfants. Peut-être as-tu perdu ta relation avec des personnes. Et Dieu te dit, non, rien n'est perdu. Continue, avance, regarde en haut, serre-moi. Brûle pour moi, brûle, brûle, brûle. Ravive la flamme qui est en toi. Une question qui va se poser, c'est, où en suis-je dans mon amour pour Dieu ? Pierre était quelqu'un qui aimait Jésus. Ok ? Et quand Jésus lui a posé la question, Pierre, m'aimes-tu ? Il a répondu, oui, je t'aime. 3 fois. Et le Seigneur lui a dit, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Il a posé la question une fois, pardon. Avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Est-ce que Pierre n'aimait pas Jésus ? Non. Pierre, quand il y a eu un moment de tension, quand il y a eu un moment de difficulté qui est venu dans sa vie, vous savez quoi ? Il a perdu pied. C'est la même chose que quand il a marché sur l'eau pour aller vers Jésus. Il a fait un grand pas de foi, et d'un seul coup, il y a eu une difficulté, une tempête qui est venue, il a commencé à couler et à boire la tasse. Ok ? Donc Pierre, à un moment donné, lui dit à Jésus, « Oui, je t'aime !» Et le lendemain matin, il est en train de pleurer parce que le coq a chanté et qu'il a renié Jésus. Mais Jésus le savait. Jésus lui avait dit, « Avant que le coq ne chante, tu me renieras trois fois. » Judas, un autre, Judas était quelqu'un qui aimait Jésus. Et pourtant, il a trahi. Est-ce que, la question que je me pose ce matin, est-ce que les erreurs du passé, est-ce que les non-faits, les non-dits, les choses qui auraient dû dites, peut-être des fois être dites ou pas dites, est-ce que le fait de ne pas avoir pris position dans notre vie pour Christ, est-ce que le fait, parce que vous savez, des fois, de marcher avec Christ, la Bible nous dit que, je perds le verset, que si nous servons le Seigneur, souvent c'est notre famille qui sera contre nous. Est-ce que le fait de ne pas avoir tenu face et d'avoir tenu ta position par rapport à ta famille fait que tu n'aimes pas Jésus ? Non. Parce qu'à partir du moment où on a connaissance de Dieu, à partir du moment où on reçoit vraiment le Seigneur dans notre cœur, ben on sait dans notre cœur et on sent cet amour. On sent sa présence. On sent qu'il est là au quotidien. On sent que dans les moments difficiles, il est avec nous. Non seulement on le sait intellectuellement, mais on le sent. Est-ce que le fait de ne pas avoir fait ou d'avoir renié Jésus dans ta vie à un moment donné fait que tu ne l'aimes pas ? Non. Et est-ce que le fait d'avoir renié, entre guillemets, Jésus à des moments dans ta vie fait que lui ne t'aime pas ? Sûrement pas. On voit plus loin que Pierre, que quand Jésus est ressuscité, il a posé la question à Pierre trois fois. Trois fois, il a posé cette question. Et Pierre, Jésus, quand il parlait de cet amour, il parlait de l'amour agapé. Est-ce que tu m'aimes ? Pas dans la première question, mais il parlait de cet amour agapé. Est-ce que tu m'aimes au point où tu puisses donner ta vie, me donner ton cœur, quelles que soient les circonstances qui sont dans ta vie, sans regarder à droite et à gauche, et sans te soucier de ce que dira Pierre, Paul ou Jacques et de ce que ça va te coûter. Est-ce que tu es capable de m'aimer et d'aller contre les circonstances ? Est-ce que tu es capable d'aller contre les gens ? Vous savez, peut-être qu'on va rentrer dans des périodes où on aura des périodes. C'est persécuté, ça ne veut pas forcément dire on te met un couteau dans le ventre. La persécution, elle peut venir de n'importe quelle façon dans notre vie. Comme je le disais tout à l'heure, les ralentissements qui sont dans notre vie sont une forme de persécution. Parce que ça ne plaît pas au diable que nous avançons. Mais Jésus, vous savez, dans sa grâce, la différence entre Pierre et Jésus, Pierre a pleuré. Pierre s'est rendu compte qu'il avait trahi son Seigneur. Pierre s'est rendu compte. Il a pleuré toutes ses larmes parce qu'il a réalisé que son amour n'avait pas été à la hauteur de l'attente de Jésus. Et vous savez ce qu'il a fait ? Il s'est repenti. Dans son cœur, il a fait un demi-tour. Quand Jésus est venu lui dire, il lui a posé la question, « Est-ce que tu m'aimes ?» Il lui a dit, « Oui Seigneur, je t'aime. » Pourquoi ? Il a retrouvé cette flamme qui était en lui. Ça veut dire, des fois, la flamme, on a tendance à l'éteindre. Des fois, la flamme, on a tendance à l'étouffer. Vous savez, si vous mettez une couverture sur un feu, ben, le feu, il s'étouffe. Si vous mettez un couvert sur un feu, s'il n'y a plus d'oxygène, il s'étouffe. Et des fois, on a tendance à étouffer le Seigneur en nous. On a tendance à l'empêcher de parler, à l'empêcher de s'exprimer. Mais le Seigneur, ce matin, dit, ranime la flamme. Ne sois pas comme Judas. Judas, vous savez, il a aimé Jésus, il a trahi Jésus, il a, renié Jésus également. Mais la différence entre Pierre et Judas, c'est que Judas s'est condamné. Judas s'est fait une auto-condamnation et il est allé se pendre. Alors que Pierre a été utilisé la grâce. La grâce, vous savez, nous sommes la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, ça veut dire tout simplement et bêtement que nous avons accès à tout moment, par le sang de l'agneau, à la présence de Christ, sans sentiment de culpabilité ni d'infériorité. Alors que quoi que ce soit, quel que soit le passé, quelles que soient les choses qui nous ont freinés, des fois ce ne sont pas forcément des choses graves. Parce qu'il n'y a pas que le meurtre, l'adultère. Mais quelles que soient les choses que nous n'avons pas faites, qui auraient dû faire, quelles que soient les choses où nous n'avons pas avancé, où nous nous sommes arrêtés d'avancer, vous savez, avec le Seigneur, ce n'est pas grave. Le Seigneur est en train de te redire, repars. Repars là où tu étais arrêté. Le repars parce que moi, je suis toujours là. Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ravive la flamme. Ravive la flamme que tu avais au moment de salut. Rends-moi blanc, Seigneur. Rends-moi blanc comme la neige. Mes péchés, mes incapacités n'ont plus rien à voir. Parce que je peux marcher, je peux repartir, je peux courir pour remporter le prix de la victoire. Vous savez, la façon où on peut voir le feu qui est en nous, où on peut voir la flamme qui est en nous, c'est dans la louange. Ce matin, comme le dit Marc, l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'on est une église vivante? Est-ce qu'on est une église qui est mon Dieu? Est-ce qu'on est une église qui s'est louée? Oui, on s'est louée. Mais l'attitude de notre cœur, ce qui ressort de nous pendant la louange, va se voir. Quel est le feu qui brûle en toi? Si tu es quelqu'un qui aime Dieu, vous savez, quand il y a les fans de Johnny, je reviens à Johnny ou n'importe quel autre, ou les fans sur un stade, peu importe, quand il y a un footballeur qui arrive, qui va marquer le but, c'est « Bon, je ne crie pas parce que j'ai pitié pour la sono. Hein. C'est « Allez, et ils attendent, ils sont là, ils encouragent l'équipe. Ils ne sont pas allés en train de dire « Allez, vas-y, oui, non, ce n'est pas du passif. » Parce que ce qui brûle dans le cœur de ces personnes, c'est que leur équipe favorite marque un but. Et vous savez, à la louange, c'est pareil. Quand on est à la louange, qu'est-ce qui brûle en nous? Est-ce que c'est le feu de Dieu? Est-ce qu'on est là pour louer le Seigneur? Une des façons d'aimer Dieu, une façon de lui porter toute notre reconnaissance, c'est de lui porter tout notre amour. C'est de lui dire combien nous l'aimons dans les situations qui sont difficiles. C'est de lui dire combien nous l'aimons quand rien ne va. C'est de lui dire combien nous l'aimons quand il y a des situations qui durent depuis 15 ans. C'est de lui dire combien nous l'aimons quand nous n'avons pas encore obtenu ce que nous avons, ce que nous voulons. L'amour que Jésus-Christ recherche n'a rien à voir avec ce que l'on ressent. Rien à voir avec ce que l'on ressent. Peu importe les circonstances, peu importe ce que je sens, peu importe ce que je vois, la parole de Dieu agit puissamment en moi. Ce temps que tu vas passer dans la prière avec Jésus, le moyen pour revenir et pour raviver la foi, pour raviver la flamme, c'est ce temps que tu vas passer dans la prière avec Jésus. Ce temps que tu vas passer dans la lecture de la Bible. Ce temps que tu vas passer à l'église avec tes frères et sœurs. Ce temps que tu vas passer dans les groupes de famille. Ce temps que tu vas passer à te donner aux autres. Ce temps que tu vas passer avec tes collègues de travail, à aimer les gens que tu n'aimes pas. C'est ça qui va raviver la flamme. Vous savez, quand on commence à dire « j'aime Jésus » et qu'on commence à se mettre tout seul dans notre coin, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un qui est passionné de Dieu va vouloir faire les œuvres qu'il a faites. Vous savez, et une dernière chose que je dis, c'est quand on parle de la passion de Christ, on parle de passion, on parle de raviver la flamme, on parle d'être vraiment fougueux pour le Seigneur, hardi pour le Seigneur, plein de vie pour le Seigneur. Il y en a un qui a eu cette passion. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de films qui le disent, c'est la passion de Christ. Christ a payé le prix pour toi, pour moi, pour tous les gens dans cette salle, pour toute la France, pour tout le monde entier. Il a payé le prix pour tous les êtres humains. Il a payé le prix pour que nous puissions aller à lui. Il a payé le prix pour que les gens soient sauvés. Il a payé le prix pour que vous et moi fassions ce qu'il y a à faire envers les êtres humains. Cette passion qu'il a animée, cette passion qu'il a brûlée, alors qu'il partait à la croix, alors qu'il était détruit, alors qu'il souffrait, alors qu'il était en train de quitter cette terre, cette passion qu'il avait pour les hommes, il est en train de me dire, c'est la même passion que je veux pour toi. C'est la même passion. Il ne nous envoie pas, certes, il ne va pas nous envoyer à la croix, il a déjà payé le prix. Mais cette motivation qu'il avait pour les hommes, c'est cette même motivation qu'il veut que nous ayons nous aussi. Alors ce matin, je te dis, tu aimes Dieu et c'est une église qui aime le Seigneur. C'est une église qui est magnifique. Ok? Il y a des couacs de temps en temps. Mais bienvenue sur terre. Ok? C'est une église qui est magnifique. C'est l'église, et il y en a d'autres, il n'y a pas que la nôtre. Il y a d'autres églises à Nice, il y a d'autres églises en France, dans le monde. Connectez-vous sur Internet et vous en verrez d'autres. Et vous continuez à venir ici. Hein? C'est une église qui est magnifique. Ok? Mais est-ce que nous avons décidé de ravive la flamme. Ravive la flamme. Repars là où tu t'es arrêté. Enlève. Je me rappelle quand je suis venue au Seigneur, quelqu'un avait prié d'enlever les scories Vous savez, c'est Dieu qui formate, qui fait le moule. Et peut-être qu'il y a, à un moment donné, des choses qui sont dans ta vie qui t'ont empêché de continuer ou qui t'ont retenu. Peut-être qu'il y a des blessures, peut-être qu'il y a des offenses, peut-être qu'il y a quoi que ce soit, un manque, peut-être qu'il y a des paroles qui ont été dites, peut-être, quelle que soit la chose qui t'a ralenti ta course ce matin, mets-la au pied du trône de la grâce et retrouve ce feu, reprends cette course, ravive cette flamme, fais de Dieu ta priorité. Amen. Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, je veux te louer et te rendre grâce parce que je crois, Seigneur, que ce matin, tu es celui qui peut tout, Seigneur. Merci parce que ton nom est élevé au-dessus de nos vies, parce que ton nom est élevé dans nos cœurs, parce que tu es l'alpha et l'oméga. Merci, Père, parce que je te remets vraiment, Seigneur, toutes ces personnes, Seigneur, parce que je crois que ce matin, tu fais une œuvre dans les cœurs. Parce que je crois que là, Seigneur, où se sont arrêtées certaines personnes, Seigneur, tu leur donnes la force de repartir. Tu mets en elles le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Merci, parce que tu es un Dieu grand, parce que tu es un Dieu puissant et parce que tu es le Dieu de l'impossible, parce que tu es celui qui peut tout. Et merci, parce que je parle ce matin par la foi que chaque personne qui est ici va courir la course, va reprendre le feu et va ramimer, raviver la flamme qui brûlait en elle au début de sa conversion, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.